Il nous restait encore de petites choses à voir, je dis petites choses entre guillemets, sur les raisons pour lesquelles nous avons toute confiance en la parole de Dieu. Et on arrive ce soir au point 4 sur sa capacité à transformer les vies. Sa capacité à transformer les vies. Je pense que plusieurs d'entre vous, la plupart d'entre vous, vous connaissez bien ce verset d'Hébreux 4, 12 qui parle de la parole de Dieu et dit la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc la Bible dit cela d'elle-même. Elle dit qu'elle a cette capacité de pénétrer donc au fond de l'âme, de l'être humain, capable, eh bien, de changer aussi, de transformer. Et c'est probablement là l'un des plus grands miracles de Dieu, n'est-ce pas? Hein, souvent, quand on parle, quel est le plus grand miracle que Jésus a accompli? Alors, ah ben la résurrection de Lazare, ou la multiplication des pains, hein, des poissons, ça c'est extraordinaire. Mais comme notre frère, il y a quelque temps de cela, il avait prêché sur ce passage qui parle que Dieu, sa volonté, son désir, ce n'est pas que le méchant meure, mais que il se repente et qu'il vive. Ça, c'est le plus grand miracle. C'est le miracle quand Dieu, eh bien, finalement, il trouve cet accès ouvert au cœur de l'homme, qui cet homme, eh bien, reconnaisse qui Dieu est, reconnaisse qui lui-même est vis-à-vis de Dieu et comprenne son besoin de repentance. Et quand cette repentance se produit dans le cœur de l'être humain, alors là, oui, c'est probablement le plus grand miracle qui existe, n'est-ce pas? Parce que on l'a vu déjà un petit peu dimanche, qu'au moment de cette conversion, au moment de cette nouvelle naissance, eh bien, c'est une nouvelle création qui est faite par Dieu. Hein, toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Hein, et Dieu fait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et chaque année, et à travers le monde entier, ce sont des millions de vies qui sont délivrées de la toxicomanie, pardon, des habitudes destructrices, autodestructrices, de blessures émotionnelles, etc. Ce sont des familles qui peuvent enfin se reconstruire aussi, grâce à l'œuvre de Dieu dans le cœur des gens. Et à ceci s'ajoutent aussi les multitudes hein, qui sont libérées de différentes emprises, comme le mensonge, le vol, la tricherie, ou même les accès de colère. Une personne qui comprend le message de la Bible, qui reconnaît qui Christ est, eh bien, Dieu peut transformer son cœur. Et c'est vrai que on n'a pas tous le même témoignage de la manière dont Dieu nous a sauvés. Pour ma part, moi je suis né dans une famille chrétienne avec des parents qui aiment le Seigneur et qui ont servi le Seigneur pendant des décennies. Et c'est vrai que souvent j'enviais le témoignage de certains. Quand j'entendais le témoignage de personnes qui s'étaient converties et qui des personnes qui étaient dans l'alcool, qui étaient dans les drogues ou dans la criminalité, et de voir comment Dieu a changé leur vie, leur cœur, je trouvais ça extraordinaire. Parce que moi, de mon côté, voilà, je faisais pas toutes ces choses-là. Ça veut pas dire que je ne faisais pas de mauvaises choses non plus. Ça veut pas dire que je n'étais pas pécheur. Mais il y avait toujours ce sentiment que, waouh, ça c'est extraordinaire ce que Dieu a pu faire dans le cœur de cette personne. Mais le fait est que Dieu accomplit ça dans le cœur de toute personne qui se repent de ses péchés. Il y a ce changement que Dieu déclare cette personne, il y a une nouvelle créature, c'est une nouvelle créature, Dieu la déclare sainte, et cette personne elle est sainte à ses yeux, Dieu la déclare juste, et cette personne est juste, non pas sur la base des œuvres de qui que ce soit d'entre nous, mais sur la base de l'œuvre de Jésus-Christ. Et donc ceux d'entre nous qui ont pu avoir cette transformation et connaissent cette transformation, et je dirais que même moi-même par rapport à ma vie chrétienne, même le fait d'avoir grandi dans une famille chrétienne, ça ne veut pas dire non plus que eh bien, ma vie chrétienne, elle a été exemplaire en tout point. Et il y a des choses que Dieu, il a dû, eh bien, travailler dans mon cœur et dans ma vie, hein, pour me modeler, pour me façonner en la personne que je dois être encore. Mais Dieu, quand on le laisse agir, il agit. Et l'un des principaux outils que Dieu emploie pour provoquer ce changement dans la vie des gens, c'est la Bible. C'est sa parole. On peut se poser la question, qu'est-ce qui fait de ce recueil d'écrits qui permet de transformer des vies de manière aussi étonnante? Comment est-ce que c'est possible que des gens puissent, eh bien, du jour au lendemain, être des personnes complètement différentes? La clé pour comprendre cela, pour comprendre comment ce livre est capable de transformer ainsi les vies, c'est voilà, de reconnaître ce qu'elle dit à son sujet. Elle se déclare comme étant la parole de Dieu. Et si on comprend quelle est la parole de Dieu, on comprend comment elle arrive à changer le cœur des êtres humains. Ce n'est pas simplement juste un recueil, une collection de livres, d'écrits inspirants, rédigés par de grands penseurs, de grands philosophes. Non. Justement, la Bible, on l'a vu, elle se distingue des autres manuscrits parce que déjà, Dieu a employé des personnes complètement différentes, d'horizons différents, de professions différentes, parfois de pays différents également, mais elle est la parole de Dieu adressée à l'humanité. Alors les écrits produits par les êtres humains peuvent divertir, ils peuvent éduquer, même éclairer certains de certaines manières, mais la parole de Dieu, eh bien elle, en a la réalité. En réalité, la capacité de changer des vies pour toujours. Et la Bible donc présente les paroles qui émanent de l'esprit et du cœur du Créateur. Ces paroles ont une puissance inégalée, eh bien, par toute autre œuvre écrite. Et elle nous présente, oui, bien plus qu'une religion. Et j'aimerais ce soir juste, et je pense que bon, dans les prochaines soirées également, mais juste partager certains témoignages. Okay, témoignages de vie qui ont été transformés, complètement changés, métamorphosés. Alors, je pourrais prendre les Écritures, citer par exemple Zachée, un Zachée qui était vraiment considéré comme quelqu'un de corrompu, un voleur, peut-être même un traître par le reste de la société, et qui pourtant, quand il a rencontré Jésus, et que Jésus lui a manifesté ben, de la grâce, de l'amour, et l'a amené a changé, hein. Zachée s'est repenti, hein, et il y a eu une vraie transformation dans sa vie, n'est-ce pas? On pourrait parler également de Saul de Tarse, qui était le grand persécuteur de l'Église, hein, un pharisien zélé, un religieux extrémiste, si vous voulez, hein, qui poursuivait les chrétiens, les emprisonnait, les torturait, maltraitait, parfois même tuait. Et donc Christ a changé la vie. Au point qu'il est devenu le plus grand défenseur de la parole de Dieu à son époque, et ses écrits qui sont inscrits dans la parole de Dieu aujourd'hui touchent encore les cœurs des gens. On pourrait parler, bien sûr, de ces exemples bibliques, mais bien sûr, les gens vont dire, ah oui, mais ça, c'est la Bible, hein. On ne sait pas qui a vraiment écrit ça, etc. Bon, on ne va pas revenir sur toute l'étude qu'on a déjà faite là-dessus, mais voilà, on sait que les gens veulent toujours d'autres exemples. On pourrait parler de John Newton. John Newton qui a eu une vie remplie de situations difficiles et compliquées. Hein, très vite, il a perdu son papa. Très vite, sa vie, elle est, comment on dit, elle a dégringolé sur le plan moral. Il a participé à l'esclavage, à la vente d'esclaves, lui-même pourtant à un moment donné dans sa vie, et c'est ça qui est extraordinaire, comment Dieu dirige les choses, mais même lui à un moment donné, il a été vendu comme esclave, il a été fait prisonnier, vendu comme esclave, il a été esclave, et lui a ensuite a continué à profiter hein, de la traite de l'esclavage, et finalement, Dieu a touché son cœur. Et c'est par son témoignage, sa repentance, ce changement de vie que Dieu a opéré en lui, hein, qui a permis par la suite eh bien, d'avoir cette influence sur des hommes comme Wilberforce qui ont participé à mettre une loi contre l'esclavage en Angleterre, hein, dans le royaume. Et c'est quelque chose d'extraordinaire de voir déjà le cheminement, mais comment Dieu peut transformer le cœur des gens. Mais on va parler peut-être un peu plus de personnes un peu plus contemporaines à nous, n'est-ce pas? Hein, pour ceux qui ont déjà étudié hein, tout ce qui a trait à la défense de la foi, hein, l'apologétique, il y a des ouvrages très intéressants et qui retracent vraiment d'une manière percutante. Différents arguments qui sont apportés contre le christianisme, et finalement, bon, ces hommes donnent dans leurs ouvrages des arguments très forts, pour contrecarrer tout cela. Ce soir, hein, si on veut bien prendre le temps de parler d'un homme qui s'appelle Lee Strobel, c'est un journaliste d'investigation, hein, qui travaillait pour le Chicago Tribune, qui était athée. Et qui aujourd'hui est pasteur. Alors juste là, de passer, bon déjà, on peut comprendre peut-être, bon, de journaliste à pasteur, ça peut arriver, mais de journaliste athée à pasteur. Et il raconte comment son parcours, hein, sa vie, ce qu'il a même amené lui-même à être athée, c'était surtout le fait qu'il y avait beaucoup de questions qui avaient été laissées sans réponse. Pas forcément par le christianisme, mais sans réponse par les chrétiens, par ceux qui enseignent. Et pour lui, hein, le fait d'avoir ces questions qui sont restées sans réponse, le fait que de l'autre côté, hein, il y a toutes sortes d'arguments, hein, que ce soit de la part d'athées, que ce soit de la part de scientifiques ou de la part de gens qui ont pour objectif de détruire la Bible et en l'accusant de toutes sortes de choses fausses, ont contribué à amener, comme beaucoup d'autres jeunes comme lui à ce moment-là, à être détournés de la vérité et à accepter l'athéisme comme quelque chose de tout à fait logique, raisonnable pour sa vie. Mais ce qui est intéressant dans son témoignage, c'est, avant d'aller plus loin, on va regarder surtout aux raisons, hein, les raisons que lui-même a citées, hein, comme étant ce qui l'a poussé vers l'athéisme. Et lui-même, il reconnaît que son athéisme, eh bien, s'est développé en trois étapes. En trois étapes. D'ailleurs, il dit que pour lui, il pensait qu'il suffirait de peu de temps pour que l'histoire soit considérée comme un canular, un mythe ou un malentendu, hein, concernant la vie de Jésus, concernant les récits que nous trouvons dans la Bible. Mais la première étape pour lui, c'est quand il était jeune homme, au collège, et il était curieux, il avait des questions, il posait des questions à des amis chrétiens qu'il avait, et plutôt que de répondre aux questions, ils ont choisi de pas engager la conversation avec lui. Bon, on peut comprendre que des chrétiens qui soient jeunes, adolescents, n'aient pas toutes les réponses. Mais quelque part, c'est triste quand, eh bien, pour des jeunes qui peut-être ont grandi dans l'Église, n'ont pas suffisamment de réponses pour répondre à des amis du même âge pour eux. La deuxième étape, pour lui, c'est une fois qu'il était au lycée, et au lycée, on lui a parlé de beaucoup de sciences. On lui a montré d'ailleurs une expérience que Stanley Miller il avait fait en 1959 hein, pour expliquer l'origine de la vie. Et pour lui, hein, pour Strobel, il déclare que il a naïvement conclu que Miller, à ce point-là, il avait prouvé que la vie pouvait être apparue de manière purement naturaliste. Et pour lui, la conclusion à laquelle il était arrivé, c'est que Dieu, finalement, on n'avait plus de travail. Si, voilà, on peut expliquer l'origine de la vie en dehors de Dieu, on n'y a pas besoin de Dieu, est-ce qu'il existe vraiment? Ensuite, c'est une fois hein, qu'il était à l'université, Et c'est vraiment ce qui l'a convaincu hein, d'être athée. C'est en étudiant l'histoire et surtout bon, les cours qu'il a reçus hein, qui remettaient en question l'historicité de Jésus-Christ, du Nouveau Testament. Et cela l'avait convaincu hein, que les écrits du Nouveau Testament n'étaient pas dignes de confiance. Alors pour lui, avec tous ces différents éléments dans sa vie, et puis bien sûr, bon, avec toute la littérature athée qu'il a pu lire et étudier, hein, qui l'ont vraiment poussé davantage dans cette pensée athée, avec ce scepticisme qu'il avait envers la Bible, envers Dieu et les chrétiens, il a aussi avoué quelque part que son scepticisme n'était pas purement intellectuel. Il a dit ceci, il a dit, j'avais un intérêt direct dans la non-existence de Dieu parce que je menais une vie plutôt immorale et je ne voulais pas être tenu responsable de mon comportement. Pour moi, dit-il, l'athéisme ouvrait un monde d'hédonisme qui, je le savais, ne serait pas acceptable pour Dieu s'il existait. Donc, même si souvent hein, l'argument de l'athée, c'est non, c'est purement logique et intellectuel, il y a quand même une autre raison qui pousse les gens à choisir l'athéisme. Et pour lui, hein, il a avoué plus tard que c'était parce qu'il voulait mener sa vie telle qu'il voulait la mener. L'élément déclencheur qui finalement l'a poussé à s'intéresser véritablement au christianisme a été des années plus tard la conversion de son épouse. Son épouse avait une amie chrétienne et cette amie chrétienne l'a emmenée au Seigneur. Et à un moment donné, il a accepté d'accompagner son épouse à l'église un dimanche matin et là, il a entendu l'évangile et il a dit ceci à ce sujet, il dit, même si je n'y croyais pas, j'ai compris que si c'était vrai, cela aurait de grandes conséquences sur ma vie. J'ai donc décidé d'utiliser mon expérience de journaliste et de mon expertise juridique, parce qu'à l'époque, il était rédacteur juridique du Chicago Tribune, pour enquêter sur la crédibilité du christianisme ou de tout autre système religieux. Et donc, il s'est mis en tête d'enquêter sur le christianisme. Et pendant cette période où il enquêtait pour démonter le christianisme, il a bien sûr résisté à Dieu. Leur mariage, bien sûr, a souffert beaucoup hein, du fait que lui, athée convaincu, cherchant à démonter le christianisme, son épouse ayant compris le message de l'évangile, essayant de témoigner à son mari, etc. Il a fallu en fait 2 ans, 2 ans pour lui de recherche approfondie, d'enquête, d'interrogation auprès d'experts qui sont pour le christianisme, d'autres qui sont contre le christianisme, des évaluations, des preuves archéologiques, que finalement, au bout de ces 2 années, il est parvenu à une conclusion. Et il dit, à la lumière des preuves scientifiques qui pointent vers un créateur et des preuves historiques de la résurrection de Jésus, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il m'aurait fallu plus de foi pour maintenir mon athéisme que pour devenir chrétien. Et donc, en raison des preuves qu'il avait trouvées, il a fini par décider d'abandonner sa foi dans l'athéisme et d'embrasser le christianisme. Il dit donc, sur la base des preuves, j'ai abandonné l'athéisme, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur, mon Seigneur et mon ami. Et donc, son ouvrage, parce que à la suite de cette enquête, il a pu utiliser ce qu'il avait trouvé pour écrire un livre afin de défendre le christianisme et d'apporter beaucoup d'arguments et de preuves, d'évidences, etc., historiques, archéologiques, etc., pour encourager les gens vraiment à rechercher Dieu. Si vous me le permettez, j'aimerais aussi partager le témoignage d'une autre personne, juste prendre quelques minutes, je ne suis pas certain qu'on verra tout, mais il s'agit d'un autre homme qui s'appelle Josh McDowell, qui lui aussi était athée, qui était étudiant en droit, et qui est devenu évangéliste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, hein, il fait des conférences, il prêche l'évangile, il amène des personnes au Seigneur. Et la première chose qu'il dit, c'est que le Christ du Nouveau Testament peut changer les vies. Pour lui, ça, c'est d'une évidence même. Et il dit, quoi qu'en disent les critiques, le Christ du Nouveau Testament donc change les vies. Des millions de personnes de tout horizon, de toute nationalité, de toute race, de toute profession, depuis plus de 20 siècles, sont témoins de la puissance décevante du péché, hein, et témoins aussi de ce que le pardon de Dieu par Jésus-Christ peut accomplir. Et il donne un témoignage aussi à propos. Ça, c'était bien longtemps avant lui. Mais cette histoire, et je crois que je vais probablement juste raconter cette histoire-là, et puis la prochaine fois, on verra le reste. Mais il dit ceci dans son ouvrage. Il dit, un ivrogne racheté, hein, quelqu'un qui donc s'était repenti de ses péchés, avec en lui des souvenirs vifs de toutes ces luttes désespérées de son passé, mais aussi ce nouveau sentiment de puissance, de pouvoir par Christ, un jour répondit à l'accusation selon laquelle sa foi était une illusion. Et cet ancien ivrogne a répondu ainsi. Il a dit, Dieu merci pour l'illusion. Il a mis des vêtements à mes enfants, des chaussures à leurs pieds, du pain dans leur bouche. Il a fait de moi un homme et il a mis la joie et la paix dans ma maison qui avait été un enfer. Si c'est une illusion que Dieu l'envoie partout, dans l'eau et dans toutes les boissons, hein, dans tous ceux qui sont esclaves de la boisson, parce que leur esclavage est une terrible réalité. Et je crois que avant, hein, de poursuivre, hein, le témoignage ici de McDowell, mais juste de considérer ceci. Le christianisme biblique, l'évangile de Jésus-Christ, quand il est compris, quand il est cru, change les vies. Parce qu'on comprend à ce moment-là d'où vient le mal. On comprend la puissance du péché dans la vie des êtres humains dans ce monde. Et on comprend que le péché, c'est la mort. On comprend que toute la misère et la souffrance qui existent dans ce monde sont directement liées au péché. Et pour moi, ça a du sens, c'est logique. C'est logique de voir que, effectivement, la raison pour laquelle ce monde va mal, comment est-ce qu'on peut expliquer même que ben, dans un même foyer, il puisse y avoir des personnes qui tournent bien et d'autres qui tournent très mal, comment on peut expliquer que des gens commettent toutes sortes d'atrocités, si ce n'est par la manière dont la Bible l'explique. Tous sont pécheurs. Et on peut essayer de faire tout ce qu'on veut pour changer même notre vie, améliorer notre situation ici-bas, ce péché, il est toujours là et il est toujours présent. Et de voir que, voilà, il y a les témoignages de toutes ces personnes, de ces hommes, de ces femmes à travers l'histoire et encore aujourd'hui, qui ont eu leur vie complètement métamorphosée par la puissance de l'Évangile. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent comme argument contre le christianisme. Quand je vois le cœur changer des gens, leurs arguments ne tiennent pas. Quand je vois comment Dieu même a pu être à l'œuvre dans ma vie et me changer aussi, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent traiter ça d'une illusion. Mais je préfère peut-être même, si vous voulez, vivre dans une illusion qui me permet d'être, aux yeux du monde, une bonne personne, que vivre dans l'illusion du péché, où les gens poursuivent l'immoralité, font du mal autour d'eux, font du mal à leur famille, à leurs enfants. Je préfère vivre dans ce que eux, ils appellent cette illusion, comme cet ancien ivrogne l'a dit, que de vivre à la manière de gens qui ne font que poursuivre leurs propres envies égoïstes, au détriment du bien-être des autres autour d'eux. La Bible a cette puissance-là de changer les cœurs. Ça requiert des personnes de reconnaître la Bible pour ce qu'elle est, de reconnaître le message qu'elle donne et d'agir en conséquence. Y a-t-il des questions par rapport à ce qu'on a pu voir ce soir?